bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2. La radio ici maintenant par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Énergie Positive, ce soir, comme tous les vendredis soirs, j'ai l'occasion d'avoir un invité, généralement pour un livre, ce qui est le cas. Christophe Alain, pour la deuxième fois, pour ce livre, Vacuité, contemplation et jouissance de la matière. La continuité d'un journal d'un éveil du troisième œil aux éditions Interkeltia ou Atlante. Christophe, bonsoir à toi.
Eh ben bonsoir.
Très heureux vraiment de t'accueillir à nouveau dans le cadre de cette émission, Christophe. C'est toujours un plaisir de te lire déjà d'une part, de t'accueillir d'autre part. Avec moi pour mener cette émission, Guillaume Darc. Guillaume, bonsoir à toi.
Bonsoir.
Guillaume qui enseigne dans la lignée d'Arnaud Desjardins et de Gilles Farset, tu es aussi réalisateur. L'occasion que tu as de m'offrir ce soir, de m'accompagner pour questionner Christophe des différentes questions qu'on peut se poser quand on est sur un chemin, une voie, je ne sais, l'occasion de façon de développer tous ces sujets là ce soir. Christophe, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas lu tes livres, qui ne savent pas qui tu es, je te demanderai finalement de te présenter et en même temps de présenter ce qui a été le début pour toi d'un changement radical de perception du monde.
Je vais essayer de faire court.
Ouais. Ça commence bien. Ouais.
Voilà, donc vers 23 ans, disons que j'ai vécu un éveil de Kundalini assez radical. Alors Kundalini, donc une énergie qui se réveille et puis qui développe, qui change sa perception du monde et qui développe plein de... Qui étend la conscience vers autre chose. Donc ça a changé donc, ma vision du monde dans la matière. Ça a ouvert des perceptions énergétiques par tous les sens pratiquement. Il manque que l'odorat, quoi. Et ça a changé vraiment toute la vision du monde que j'avais à ce moment-là. Et ça a été pour moi le début d'une voie qui est toujours en cours, hein, d'évolution et de travail sur soi.
Voilà. Il faut dire, alors oui, effectivement, c'est un très beau résumé. Je te dis chapeau, c'était pas forcément évident, tu t'en sors bien.
Je trouve aussi.
On rappelle aussi que tu étais athée, tu ne croyais en rien, plus ou moins autiste dans le domaine informatique, ce qui a son importance. De parents qui sont athées et qui en même temps bien sont médecins. Et dans la famille, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un médecin, un psychothérapeute, un psychanalyste, je ne sais. En tout cas, lorsqu'il t'est arrivé cet événement, ce qui est important aussi de préciser pour les auditeurs, c'est que la première chose que tu fais, au constat que, bah, en descendant dans la rue le lendemain de cette expérience, les choses ont totalement changé, tes ressentis ont totalement changé, tu vas voir un psychothérapeute ou un psychanalyste?
Oh, c'était un psychothérapeute. Hein,
psychothérapeute, ouais.
Parce que mes parents, ils en connaissaient, donc ils m'ont indiqué un psychothérapeute. Voilà. Après cette expérience, donc ça change donc complètement la perception du monde. Hein, il devient d'un coup fabuleusement beau. Plein de choses qui sont pas tangibles. Tu commences à toucher complètement aussi fort que la matière, tout ce qui est énergie, tout ce qui est échange d'informations entre humains. C'est vrai que c'était un peu fort. Hein, c'est je croisais les gens, je devenais les gens. Tu perçois le monde vraiment dans son côté subtil, mais de manière aussi concrète que la matière. Donc tu peux pas le nier. C'est pas mon éducation, donc je sais pas trop à quoi me raccrocher. J'ai aucune notion de spiritualité, aucune notion de le curé dans ma famille, on en rigole hein, déjà. Alors c'est dire. Alors les hindous, c'est bon. Voilà, c'est pas trop. Donc à partir de là, je suis obligé de trouver des solutions qui pour moi sont rationnelles. Donc aller voir un psy. Bon, il s'avérait que ça a été peu concluant finalement. Hein, c'est qu'en fait, lui, il n'a pas su trouver ce que j'avais parce que j'ai toujours été rationnel dans ma manière de voir le monde, même avec des perceptions transformées. Et moi, j'ai compris qu'il allait falloir chercher ailleurs, voire tout seul. Donc, je me suis mis donc, à travailler donc, avec mon meilleur ami à ce moment-là. Et c'est là qu'on a avancé ensemble, quoi, sur autre chose que ce que les Occidentaux connaissent. On va dire, voilà.
Je vais commencer ce livre, alors, pour information. Déjà d'une part, donc c'est le troisième tome d'un journal d'un éveil du troisième œil, parce que effectivement, il est écrit comme un journal de bord, de journée, où il se passe des événements, des choses, où tu mets en mots, finalement, ce que tu ressens, ce qui te traverse. tome 1, tome 2, tome 3, celui-ci, vacuité, contemplation et jouissance de la matière. Autant le tome 1, c'était la mise en forme de ce que tu découvrais, avec ton langage, tes propres mots. Il n'est pas forcément évident de saisir ou de comprendre de prime abord, quand on lit le premier tome, de voir ce que tu racontes finalement, parce que qu'est-ce qu'on met derrière les mots? C'est la grande question. Chacun a une conception particulière d'un mot, d'une phrase, de l'ajustement de ces mots ensemble. Donc, accueillir ce premier tome avec le mental, c'est pas forcément évident, avec le cœur beaucoup plus. Et dans ce troisième tome, je fais l'impasse sur le deuxième. Le deuxième est dans la continuité du premier. Mais le troisième, pour le coup, le chiffre 3 a pour le coup une symbolique très intéressante, c'est que tu commences à codifier. Tu codifies. Tu te mets à la portée des autres, à mon sens, de façon à expliquer ce que tu ressens avec un langage, un vocabulaire qui puisse permettre à tout à chacun de saisir ce que tu mets derrière ces fameux mots que peuvent être énergie, 3D, 4D, le ressenti, la goutte rouge, la goutte blanche, tous ces différents mots qui t'étaient personnels, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Là, dans ce livre, l'occasion vraiment d'approfondir et de comprendre ton état d'être ou ton état d'esprit à travers le vocabulaire, ce qui est extrêmement important. Et je vais commencer par la fin.
Ah.
Ouais. Parce que je trouve que ce que tu mets, alors j'ai fait un peu de lecture, mais en même temps, ça va être une bonne introduction pour les auditeurs. Un avatar dit « Il n'existe que l'amour. Où que je regarde, je ne vois que moi-même et un amour infini. Comment pourrait-on douter que tout est amour et divin ?» C'est ce que dit l'avatar. « Il est ok, lui. » En ce qui me concerne, je vois plein de trucs, mais pas moi-même, sauf devant un miroir. Quant à l'amour infini, hormis dans les feux de l'amour, à la télé, on n'en voit pas beaucoup. Et encore, même là, ce n'est pas terrible. Un type sur un rocher me dit « Ne cherche rien, entre dans la vacuité. » Mais qu'est-ce qu'il dit le vieux? Quand je ne cherche rien, il ne se passe rien. En plus, c'est quoi la vacuité? Je n'ai pas envie de devenir un abruti lobotomisé, assis sur un rocher. Un mystique me dit « Abandonne-toi à Dieu et tu rentreras au royaume des cieux. Il n'y a rien d'autre à faire. » Mais qui est Dieu? Et comment fait-on pour s'abandonner à Dieu? Je ne l'ai jamais vu au boulot. Et le curé a l'air de dire que c'est un type colérique, pas toujours sympa. Un curé me dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Mais j'ai l'impression d'être sympa. Ce sont les autres qui ont un problème. M'obligeant à fermer à clé ma maison, ma bagnole, j'ai peur des gens costauds et louches qui me regardent de travers. Et au boulot, on n'arrête pas d'essayer de me piquer mon poste. Les autres sont bêtes, méchants et de mauvaise foi. Alors pourquoi moi, qui suis gentil, je ne me méfierais pas d'eux? En baissant ma garde, je me fais avoir à chaque fois. De toute façon, je ne m'aime pas. Je suis trop grand, trop gros, trop maigre, pas assez costaud, trop costaud, etc. Tiens, quelqu'un a laissé tomber un portefeuille. Il ne regarde pas, personne à droite, personne à gauche, et hop, dans ma poche. Franchement, il n'avait qu'à être prudent. Ok, ce n'est pas bien, mais là c'est de la provocation, j'ai des factures à payer. En plus, il ne m'arrive que des tuiles. Franchement, je n'ai pas de bol dans la vie. Tiens, on a cambriolé mon appartement la semaine dernière. Franchement, je ne comprends pas pourquoi le sort s'acharne sur moi comme ça. Un type me dit « Pense positif. Ce sont tes pensées qui créent le monde et les événements. Si tu penses positif, tout va pour le mieux. » Mais je n'arrête pas de penser toute la journée, sans arrêt. Et quand les pensées ne sont pas positives, j'ai beau essayer d'arrêter, ça continue. C'est une mauvaise journée, je suis déprimé, j'ai le cafard, c'est comme ça, comme tout le monde. Encore un escroc qui essaie de vendre du rêve. Un type dit « Entre dans le moment présent. Tu n'as ni passé ni futur. Dans le présent, tu retrouves ton pouvoir et sors du rêve. » Mais toute la journée, j'écoute les nouvelles à la télé pour savoir si mon futur va bien se passer. Si je vais pouvoir garder mon boulot, ma maison, ma vie, quoi. J'ai un cerveau, moi. On m'a appris à extrapoler à l'école. Pas à être un cheval qui vit dans le moment présent. Il est con, lui. Un autre me dit « Il suffit d'être, tout simplement. » Ah bon? Alors je continue comme avant, vu qu'il n'y a rien à faire. Moi aussi je suis. Comme ça, je fais ou je parais. Il est con lui aussi, alors. En résumé, ce n'est pas gagné. Le quiproquo vient de l'écart de perception du monde entre ces personnes et les autres. Ils ont déjà avancé sur eux-mêmes, perçu l'énergie, l'espace-temps, le divin, la vacuité, ont acquis une connaissance d'eux-mêmes, mais également de leur inconscient et de leur subconscient. Ils ont oublié comment c'était avant. Peut-être parce qu'il leur semble évident que tous les autres peuvent faire comme eux. Parce qu'ils perçoivent bien plus de choses que le commun des mortels. Et ils voient bien que toutes ces parts sont présentes chez les autres dès le début. Simplement, les autres n'en ont pas conscience. Alors quoi, c'est foutu? Si ça ne tombe pas sur la gueule d'un beau matin, c'est sans espoir? Peut-être qu'il y a une porte d'entrée à tout ça. Différente pour chacun. Mais on ne peut pas passer de tout à rien, et pas de rien à tout, en un instant, ou alors tout à fait temporairement. Peut-être qu'avant de tenir de tels propos, ces gens sont passés par des recherches, des transformations et des étapes importantes qu'on occulte ou dont ils ne parlent pas. Tout est là, et il n'y a rien à faire, oui, plutôt à défaire. C'est notre vision du monde et de nous-mêmes qui constitue le problème. Encore faut-il commencer à regarder ce qui nous entoure et s'observer soi-même. Peut-être que, sans tout planter pour partir au Népal ou sans faire 15 heures de méditation par jour, on peut avancer malgré tout sur soi, sans rien réellement changer à sa vie. Commençons par le commencement. Voilà pourquoi je le lis en intro. Hein. Je trouve que c'est très intéressant parce que finalement tu as repris tout ce qu'on peut lire à travers différents livres de spiritualité, de grands maîtres, qui effectivement disent à leur manière ces différentes répliques que tu as mentionnées. Il est extrêmement difficile de saisir tout ça. Un coup il y a un chemin, un coup il n'y en a pas, un coup on pose positif, un coup il s'agit d'être dans le présent, mais qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour tout à chacun? Et c'est vrai que ces grands êtres, généralement, puisqu'ils ont atteint cette vacuité, ne montrent pas forcément le chemin pour le parcourir. Ils ont oublié qu'eux aussi, à un moment donné, ils étaient en chemin. Et sous prétexte qu'ils sont arrivés dans une certaine forme de vacuité, bah ils ont compris que tout est là. Oui, mais comment le décrire? Et c'est pour ça que ce livre est très intéressant, entre autres comme les trois autres, c'est qu'il permet de voir le cheminement. Et de voir à travers ce cheminement comment ton état d'être évolue, grandit. Et on te suit au fil des pages, parce que c'est vraiment un journal de bord. Et tu commences par la peur de la mort. Grande question, la peur de la mort. Et tu nous dis, la peur de la mort se crée de deux manières. Alors, de quelle manière se crée-t-elle, la peur de la mort?
Oula.
Alors là, pour le coup, puisqu'à un moment donné, on va aborder la mémoire dans ce livre, je pressens que tu vas nous dire, en fonction de l'instant présent, ce que tu ressens et de ce que peut être cette peur de la mort et comment elle se crée de deux manières, sachant que j'ai moi sous les yeux ce que tu as pu mettre dans ce livre.
Ah, c'est possible que j'ai pas mal avancé sur la question, puisque j'ai beaucoup travaillé le bas. Mais...
Sachant, je fais une parenthèse juste avant que tu nous répondes, que ce livre a été écrit fin d'écriture en 2009.
Ouais.
Et donc on est en 2012. Donc quand on voit le chemin dans lequel tu étais en 2009, il est clair qu'il n'est pas le même aujourd'hui. Et je fais une autre parenthèse avant que tu nous répondes. Pour ceux et celles qui désirent se procurer le livre, un message de l'éditeur Christelle Seval. Bon, je lis ce mot. Merci aux auditeurs, lecteurs qui ont acheté les livres sur le site www.interkeltia.com. Cela permet de mieux rémunérer l'auteur et l'éditeur, sachant que pour les livres achetés ailleurs, exemple en librairie ou sur Amazon, 60% du prix est prélevé par le circuit de distribution. Chez Interkeltia, les frais de port sont gratuits à partir du quatrième livre acheté. Voilà, interkeltia.com pour le site internet. Et je remercie Christelle par avance, parce que c'est aussi grâce à lui que tu es là ce soir. Alors, la peur de la mort.
Ah, c'est une colle, hein. la peur du changement, principalement. Ce que je te dirais aujourd'hui, qui, si on le ramène à quelque chose de simple. Ça va être compliqué, là, si je commence à partir là-dessus. Bon. Une histoire qu'à un moment, finalement, à quoi est-ce qu'on s'identifie dans cette histoire-là? Est-ce qu'on s'identifie à ce corps, à cet esprit? Et est-ce qu'on est prêt, une fois qu'on a saisi ce corps et cet esprit, à les voir changer de forme ou disparaître pour être remplacé par autre chose? Voilà, tout le travail est là. C'est un problème d'identification et un problème de peur du changement. Ceci dit, c'est la clé pour moi, pour compréhensible le plus simplement possible, c'est une vraie peur du changement. Parce que la mort n'est qu'une évolution, en fin de compte. Et une très grosse évolution. Je n'ai plus rien à faire avec ce corps et cet esprit, j'en change. Parce que j'ai plus rien à apprendre avec. Pour nous, il n'y a pas vraiment de transition, on passe juste à autre chose. Mais ça veut dire, si tu t'es accroché à ton illusion d'existence physique ou et mentale, ce qui est encore plus puissant chez les Occidentaux, puisque nous, on part du principe que l'esprit est tout puissant, notre esprit humain.
Alors, je fais une parenthèse, quand tu parles de l'esprit, tu parles du mental. Parce que après,
un peu plus que ça.
Oui,
on va sur des choses un peu au-delà. Le mental, c'est ce qui modélise, qui donne une forme à la réalité. Si où tu regardes, tu vois ce que ton mental te montre. Hein. Même les scientifiques te diront, tu perçois, puis le cerveau il crée une image en trois dimensions, puis te renvoie. Voilà, ça n'est qu'une modélisation. Hein, tout ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Le mental, lui, son rôle, c'est de donner une forme A. Et il va aller jusqu'à une certaine étape dans l'inconscient, très profond, hein, faut pas croire, hein, c'est pas juste superficiel, c'est lui qui crée la réalité qu'on touche. Dessous, tu vas trouver encore d'autres choses, hein. L'esprit humain, ce n'est pas que ce mental, ça va être aussi tout le côté psyché, psychisme, ouverture temporelle, comment je crée le temps et l'espace. Donc en fait, on n'est pas seulement en train de regarder un monde qu'on rationalise, on est aussi à un niveau plus profond encore, créateur de notre propre histoire, du temps et de l'espace autour de nous. Donc c'est ces choses-là auxquelles on s'identifie complètement, donc en profondeur, on s'identifie au corps, on s'identifie à l'esprit, et vraiment on est dans une logique de croyance à la survie de l'esprit humain après la mort. De dire, ben, moi tel que je suis, ben, j'aurai plus de corps, mais ce sera toujours moi, et ce moi-là, il va aller au paradis avec Saint-Pierre, et voilà. Et ça, c'est pas forcément ce qui est. La part de nous qui est immortelle, elle est déjà, mais elle est pas forcément. C'est pas forcément à ça qu'on s'attache. Et cet esprit n'est qu'un jeu comme un autre, finalement. C'est-à-dire que peu importe ce que tu es, ça n'est que le rôle du personnage que tu joues. Et quand tu changes de rôle, tu changes de script. Et ça n'a pas d'importance pour ce qu'on est vraiment derrière. Mais cet attachement-là provoque la peur. Et accepter ce changement, bah dire à un moment, bah c'est juste un jeu. Et on peut en changer.
D'accord,
Voilà.
donc c'est comme si quelque part moi, ma personnalité, Laurent, de ce que je pense être de moi, pas tant physiquement, parce qu'à la rigueur, on peut avoir une certaine forme de détachement vis-à-vis du corps et croire dans la vie, dans l'au-delà. Maintenant, ce qui paraît le plus difficile dans cette forme de détachement, c'est de se dire que ma personnalité, est-ce que j'ai pu peut-être à la fin de ma vie regarder en arrière et dire, ouais, bah, j'ai réalisé pas mal de choses, mine de rien, j'ai laissé une trace, j'ai été quelqu'un d'important, pourquoi pas, hein, donc ce rôle dont tu parles. Hein, et là, pour le coup, même si j'ai cette croyance dans la vie après la mort, de quitter le corps, je me dis, bon, pas de problème. Mais l'attachement à ce rôle, le Laurent en question, là, c'est extrêmement difficile de se dire, bah, il va peut-être se dissoudre.
Et ouais. Ça serait très dur parce que ce qui est derrière, si ça n'a pas été perçu de son vivant, et c'est là qu'on retrouve le problème de tous ces maîtres, entre guillemets, hein, qui sont juste des humains sur une voie d'évolution un peu, qui sont plus grands que nous, mais qui ont perçu ce qu'il y avait derrière, et qui ont compris que cette chose-là, c'était ce qu'ils étaient, et que ça, ils n'ont pas besoin de s'attacher au film et à l'histoire du personnage. Un peu comme si tu te rappelles que tu es en train de regarder une émission, et à un moment tu t'es pris pour le personnage de l'émission, puis voilà. Mais cette transition est très difficile si on n'a pas perçu cette notion de qu'est-ce qu'on est vraiment là-dedans. Et donc c'est effectivement ce qui provoque un peu toutes nos religions, où on confond finalement ce qu'on est vraiment avec cet esprit humain. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces logiques de jugement, de continuité, de dire mais ce que je suis, c'était moi aussi dans d'autres vies. Mais non, c'était pas cet esprit non plus. C'était pas. Tant c'était un salaud, puis là t'es gentil, puis tant dans le prochain tu seras. Et ça n'a pas d'importance pour le divin. Et ça c'est très compliqué parce que pour nous il y a un jugement là-dessus. Et voilà, il y a c'est très occidental de mettre le mental en tout puissant et de croire que finalement le corps c'est pas important. Enfin c'est important, mais pas tant que ça. Et que par contre l'esprit lui vraiment on s'y accroche comme des malades. Hein. Il faut que lui il survive après la mort et tout ça.
Tu nous dis aussi la peur de la mort, ça serait la première manière d'avoir peur de la mort, à savoir donc cette notion de peur de la séparation de notre nature, donc qui est créée par le mental, comme tu viens de le dire. Et en même temps, il y aurait la deuxième peur, c'est dû à l'enlèvement du savoir sur notre capacité de communication avec l'univers, d'où l'ignorance qui en découle et notre incapacité à communiquer avec nos morts.
Alors effectivement, mais ça, c'est quelque chose de social et une peur finalement de perdre la relation avec l'autre. Ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mort, qu'est-ce que c'est qu'un vivant. Et pour nous, c'est pas, bah, c'est logique, hein, je veux dire, nos morts, on les perçoit pas. Donc à partir de là, on n'a pas vraiment notion de ce qui se passe. On fantasme ou on prend l'enseignement religieux qui dit cet esprit perdure ailleurs. Donc on se dit, ben, nos morts, ils n'ont pas ce corps, mais leur esprit tel qu'ils étaient, eh ben, il doit exister quelque part. Je vais pouvoir les retrouver. Ce qui n'est que partiellement vrai en réalité. Et effectivement, voilà, ce côté. Si on gère le deuil et la perte des autres, le vrai problème c'est l'abandon finalement. C'est pourquoi est-ce qu'on m'a laissé, pourquoi on m'a abandonné, et cette peur de perdre la relation avec l'autre. Voilà.
Et de cette peur de la relation avec l'autre. Donc, lorsqu'on passe de l'autre côté, admettons, hein, parce que là on va spéculer un petit peu, et en même temps tu nous diras ce soir uniquement ce qui est ta vérité en fonction de
Bien
cet
sûr.
instant présent, hein, ni plus ni moins, il n'y a personne à convaincre. Mais si effectivement on aura l'occasion de revenir, hein, parce que finalement on va peut-être parler du diamant à travers des portes d'entrée que sont les différentes facettes, et on va revenir comme ça, on va tourner tout autour finalement. Et on va parler de la vacuité, hein, en même temps, et de ce grand vide qui est plein. Et dès le moment où on se dit qu'on va quitter ce corps, partir de l'autre côté, où on a l'occasion de le voir, ou de le développer, c'est de se dire, quelque part, je ne suis pas seul. J'ai les autres, et le fait d'avoir les autres me permet de me raccrocher à mon identité ou ma personnalité dont je parlais tout à l'heure. De toujours vouloir jouer ce rôle parce qu'il y a les autres aussi qui me rassurent sur le fait que j'existe. Si, admettons, j'apprends que je suis seul ou j'expérimente que je suis seul, mais seul en étant tout, le tout qui est rien, qui est plein et qui est vide, c'est difficile de se dire qu'on est tout ça. Il peut y avoir une peur immense de côtoyer ce grand vide et qui est plein. Et on peut le voir dans ton journal, à un moment donné, tu touches cette vacuité ou ce grand vide qui à un moment te fait peur. On le sent, hein, on
Ah
va
bah,
avoir
une terreur
l'occasion
très
de.
forte.
Ouais. Donc cette notion d'attachement au fait que la séparation, quelque part, cette idée de séparation est nécessaire parce que l'idée de séparation en elle-même, l'attachement à la séparation, qui me permet de penser qu'il y a les autres, me rassure sur le fait que je ne suis pas seul. C'est extraordinaire quand même.
Eh ben, c'est un schisme entre deux perceptions qui ne sont pas placées au bon niveau. C'est qu'est-ce qui se passe quand à un moment ta conscience s'étend, tu perçois quelque chose qui est de l'ordre du divin et que tu essaies de le ramener dans l'humain. Voilà le problème. Dieu est seul pour l'éternité, ça lui pose aucun problème. L'humain, c'est pas gérable. Ben oui, c'est aussi bête
Ouais.
que ça. Qu'est-ce qui se passe quand à un moment tu as une perception étendue et que l'ego s'approprie ça en disant c'est moi qui l'ai vu, c'est moi qui suis seul. Non, nous, on joue à être plein. Donc nous, on sera jamais seul. Et d'ailleurs, on est dans un corps de chimpanzé. Hein. Les chimpanzés, c'est pas des loups solitaires. On n'est pas fait pour être seul. Et quand tu perçois vraiment, mais que tu le vis, quoi, cette solitude pour l'éternité du divin, c'est là que la terreur s'installe. Et
Ça,
c'est un des
c'est.
nœuds du cœur. Hein. C'est quelque chose, à un moment, c'est des choses qu'on rencontre sur la voie. Quand je dis des nœuds du cœur, c'est un des obstacles qu'on trouve sur le centre. Qu'à un moment, accepter que Dieu est seul pour l'éternité, puis que lui, ça lui pose aucun souci.
D'accord. Donc en
Mais pas
fait,
nous.
oui,
Voilà.
pas nous en tant qu'être humain, parce que l'ego
Remettre les choses à
touche.
leur
Ouais.
place. Ben, c'est ce qui se passe très souvent quand on est dans des perceptions étendues, au moins temporairement ou sur la route. C'est un moment, c'est quelque chose prend ça, essaie de le traduire et se l'accapare. Et c'est quoi? Ben, c'est l'humain. Et donc l'humain perçoit quelque chose de on perçoit quelque chose de divin avec une perception étendue et notre esprit prend ça puis se l'approprie. Et il essaie d'en faire quelque chose. Et c'est pas forcément bien à propos que remettre les choses à leur place. Ce qui est de l'ordre du divin, ce qui est de l'ordre de l'humain. Même si on peut dire qu'au final, ça reste la même chose, c'est toujours le même, mais pas au même niveau de perception et pas de lui-même. Et c'est judicieux que tout soit à sa place. Le fini n'a rien à faire dans... Enfin, l'infini n'a rien à faire dans le fini, et le fini n'a rien à faire dans l'infini. C'est pas gérable, hein. De toute façon, une énergie infinie dans du fini, ça marche pas. Eh oui.
Et ça explose, hein.
Ben voilà. Donc à un moment, c'est ce qui se passe en fait quand tu avances sur ces voies-là. Les moments de terreur absolue viennent de ces perceptions qui dépassent complètement ton entendement, puis qui sont appropriées par une part humaine. Si je dois aller plus loin sur ce que tu disais sur la mort, c'est pas le mort qui a le problème. Tu peux l'expérimenter, il y a des choses intéressantes, des exercices marrants à faire. Bon, chacun le fait s'il en a envie, hein, truc de chaman. C'est genre on t'enterre vivant. Alors, tu peux le faire version soft, tu vois, genre dans la neige, ou moi j'ai fait la version dans la
Dans le
neige.
sable, ouais.
Voilà, ou quelque chose où, enfin, on n'est pas obligé de te foutre dans un cercueil, hein. Les autres font la cérémonie d'enterrement symboliquement, puis s'en vont. À l'instant où le dernier s'en va, t'as une évacuation, un soulagement. Ça y est, j'ai arrêté de jouer. Mais vraiment, tu sens que toute ta structure est vide d'une demi-tonne de stress, de machin, de plus besoin de jouer le rôle, c'est bon, ils sont partis. Donc le problème, c'est pas celui qui meurt, c'est les autres. C'est ceux qui veulent pas le laisser partir. Et c'est plutôt dans l'autre sens que c'est problématique, en réalité. C'est pas pour le mort. Parce que la mort, quand on te met dans le cercueil, tu retournes dans le ventre de la mer. Et tu fais le portail en sens inverse, hein, en fait. Tu refais exactement le même chemin en sens inverse. Et à l'instant où les autres s'en vont, tu repars niveau au-dessus. Et là, il n'y a plus de soucis, parce que tous les problèmes ne viennent que de l'humain. Ils ne viennent pas des niveaux plus hauts, ça ne les dérange pas. Et quand ta conscience reperçoit ces niveaux un peu au-dessus, eh ben, il y a plein de choses qui. Voilà. Donc tu n'es pas obligé de mourir, hein, tu peux le faire en thérapie. C'est très très intéressant. Puis surtout, tu perçois à quel point toi, tant que l'autre est là, tu ne peux pas t'en aller. Il faut vraiment que le dernier soit parti. Alors c'est vrai que c'est particulier quand t'es enterré sous moi, c'était sous la neige, tu les entends vraiment s'éloigner, quoi. Et c'est vraiment quand le dernier est parti que ça lâche. Voilà. Et c'est dans l'autre sens. La peur de l'abandon vient de nous, comment on fait le deuil de nos morts, plutôt. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce que sont ce qu'on appelle les fantômes, ceux qui errent? C'est ce que tu nous dis, parce qu'il y aurait deux cas de figure, justement, par rapport à cette peur de la mort. Ceux qui restent dans l'état intermédiaire, ceux qui remontent dans la lumière, et enfin, ceux ayant dépassé le cycle des réincarnations.
Alors je peux te le définir plus clairement peut-être maintenant, hein, parce que j'ai un peu travaillé sur la question. Puis c'est l'occasion, enfin bon, voilà. Disons que la matière, c'est le monde du fini. Le monde de la vie, c'est le monde de l'acteur. Le monde spirituel, c'est le monde infini, le monde du scénariste. Donc en fait, le monde spirituel, imagine un autre monde complètement différent dans lequel tu écris des histoires à partir de rien. Mais tu n'as pas de corps pour les expérimenter. Tu es omnipotent. T'as une part de toi qui est omnipotente, qui s'exprime pleinement à ce moment-là, mais qui est totalement incapable de vivre du relatif et d'exprimer une histoire de manière relative. Elle peut créer à partir de rien, par contre. Puis à un moment, cette part, une fois qu'elle a créé son histoire, elle va descendre s'incarner dans cette histoire. Donc il y a le processus dans un sens, qui est le processus d'incarnation. C'est d'abord une descente d'une dimension infinie dans du fini. C'est pour ça que la naissance est très compliquée, beaucoup plus dure que la mort. Parce que passer d'infini à infini, c'est vachement compliqué, hein. C'est l'histoire du trou noir. Si tu prends quelque chose, puis tu le densifies à fond. Bah, trou noir, c'est ça. C'est exactement ce processus. Donc c'est le chaos, puis la densification, puis tu pars de quelque chose d'infini, tu descends dans du fini. Donc dans ce processus, quand ça se passe mal, ça donne les gens un peu comme moi. C'est-à-dire, tu restes un pied dans le monde spirituel, puis tu n'arrives pas complètement à descendre dans la matière. Moi, ce qui me venait, c'est dire, finalement, je suis dans le Styx. Je reste à la frontière entre la vie et la mort. Je ne descends pas vraiment dans le corps, je reste pas vraiment chez les morts. Donc dans un état un peu inconfortable, mais en même temps tu es dans une frontière. Donc tu vois plein de choses. Parce que les frontières, c'est un peu bugant, hein, pour parler informatique. C'est un endroit où il y a l'ouverture sur plein de choses. Normalement, un vivant, il oublie tout cet aspect. Je suis le scénariste, il descend dans la scène et il oublie complètement pour pouvoir jouer sa scène en direct, quoi.
En ayant oublié qu'il ait écrit le scénario.
Pire que ça, c'est comme la mort se passe en dimension infinie mais pas en temps linéaire, et que la vie se passe en temps linéaire, tu as à la fois mort et vivant en même temps. Alors là, c'est plus compliqué pour notre tête. Donc en fait, le scénariste il est toujours au centre. Et c'est toi quand t'es mort. Donc c'est ta part absolue. L'humain est vraiment séparé en deux morceaux, hein. On est séparé en une part absolue, une part relative. Les autres ne le sont pas. Un ange n'est pas séparé en deux morceaux. D'autres niveaux de conscience ne le sont pas. L'humain, il est vraiment coupé en deux. Et il vit là. Mais c'est comme le jour et la nuit. Enfin, oui, le jour et la nuit, la mort, la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que la nuit, tu es dans l'inconscient, tu es dans le scénario. Et le jour, tu joues la scène. Et toutes les nuits, tu répètes la scène du lendemain. Hein. Enfin, tu vas. Les ouvertures temporelles, toutes les nuits, tu explores tous les futurs pour vivre le meilleur. Voilà. Quand la personne meurt, c'est le processus inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'elle est dans du fini, elle va remonter dans une dimension infinie. Pour descendre dans ce, il y a eu toute une structuration.
Pour descendre dans le
Ouais, dans le
fini.
fini. Tu as été obligé de faire un rêve, imbriqué dans un rêve. Donc en fait, il y a plein de niveaux. T'es pas descendu d'un coup, parce que tu passes pas d'un état omnipotent et infini à un état fini en faisant un saut de puce, hein. C'est tout un travail de structuration. On a structuré un monde spirituel. Un mental, un émotionnel, enfin énormément de choses qu'on peut même pas, tu vois, on est parti d'une cause d'incarnation, un causal, et on a créé énormément de choses à partir de ça. Quand tu vas mourir, d'abord tu perds le corps, ensuite tu perds l'esprit, c'est-à-dire que cet esprit humain se déconstitue en sens inverse. Donc ça donne à peu près toutes les expériences d'état intermédiaire. Tu passes par ton monde émotionnel, donc généralement les gens vivent l'enfer parce que ils ont un émotionnel pourri, hein. S'ils ont un émotionnel au clair, ce passage-là se passe très vite. Après t'as ton monde mental, après t'as tes mondes spirituels. Tu vis tes paradis et voilà. Hein. Et une fois que tu as pu déconstituer ça, celui qui remonte dans la lumière, il repasse chez le scénariste, il redescend plus généralement.
Et c'est là où tu arrêtes la réincarnation, ce qu'on appelle la
Non,
réincarnation?
la réincarnation ne peut s'arrêter que quand le scénariste et l'acteur s'unissent, quand on ne fait à nouveau plus qu'un. L'humain est vraiment séparé en deux. Et ces allers-retours se font incessamment. C'est-à-dire tu passes du monde du scénariste à celui de l'acteur et ainsi de suite. Et tu passes autant de temps à être mort que vivant. Enfin, pour peu que le temps ait un sens, mais. C'est comme le jour et la nuit, tu passes autant de temps à dormir qu'à... C'est pas parce que t'es pas conscient que tu vis pas la nuit, hein. Tu fais plein de choses, mais tu les oublies le jour. Et cette notion, pour finir l'humain, à un moment, ben, il faut que les deux s'unissent. Ils peuvent s'unir que dans le cœur, parce qu'il n'y a que le cœur qui peut intégrer les opposés, l'absolu et le relatif. Et ça ne peut se faire que sur scène, pas dans le monde du scénariste. Donc quand l'acteur et le scénariste se réconcilient sur scène, c'est la fin de l'humain. Elle se passe dans le cœur. C'est pas le haut, c'est pas le bas, c'est le centre, la sortie. Voilà. Et dès que c'est fini, on n'a plus rien à faire chez l'humain, donc généralement on meurt, hein, on n'a plus rien à faire là. Et on est à nouveau un et on peut passer à autre chose, une autre étape.
Alors, juste avant de reprendre ton dernier propos, et t'hésites pas, Guillaume, parce que je prends comme ça la parole, mais tu n'hésites pas un seul instant. Tu parles du cœur étant le centre. Pour les auditeurs et ce dont on va parler, encore une fois, et pour le vocabulaire, tu parles du centre donc comme étant le cœur de l'être humain, les énergies d'en haut, l'absolu, les énergies d'en bas, le relatif. Et donc que ces deux énergies soient concentrées dans le cœur et que le cœur puisse rayonner de façon à réunir l'acteur et le scénariste. Dès le moment où il y a cette réunification qui se fait, est-ce à dire que, pour reprendre l'exemple de l'acteur, je suis acteur et en conscience de jouer un rôle, une scène, et je ne suis plus identifié au rôle. C'est ça que ça sous-entendrait?
Alors en fait, il y a tout un travail. Donc il y a effectivement une énergie qui descend de haut en bas et une autre qui monte de bas en haut. On est plus ou moins doué pour l'un ou l'autre, hein. Nous occidentaux, haut en bas plus facile que bas en haut. Hindous, beaucoup plus facile bas en haut que haut en bas. Entre autres. C'est quand ces deux énergies s'unissent que le centre commence à se déverrouiller. Alors le centre, le cœur, c'est vrai, le cœur, c'est peut-être pas le bonbon parce que c'est pas l'organe, c'est pas le chakra, c'est autre chose. C'est l'étincelle divine. C'est la chose, en gros, le centre de tout l'univers parce qu'on est tous l'univers entier qui rêve. Ça, c'est encore voilà.
On va voir le développer après, oui.
Bon, disons que ce centre va commencer à se déverrouiller et il y a tout un processus qui se déroule à partir de ce centre. C'est pas instantané, c'est pas en claquant des doigts. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, d'un coup, quand le scénariste et l'acteur se mettent d'accord, et c'est pas le scénariste qui est pas d'accord, c'est l'acteur qui refuse de voir le scénariste. Hein. Si je te le mets dans l'ordre, dit un peu différemment, t'as la logique du curé où c'est le relatif qui supplie l'absolu. Donc c'est l'acteur qui supplie le scénariste, hein, qui dit vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Alors que le scénariste, si à un moment il répond au curé, il va lui dire bah, c'est toi qui choisis, hein. C'est toi qui joues la scène. Et c'est pour ça que curé, il n'entend jamais Dieu, hein, s'il entendait Dieu. Ce qu'il appelle Dieu, lui, c'est sa part absolue. Et s'il entendait Dieu, Dieu, il pourrait plus être curé bien longtemps parce qu'il comprendrait qu'il c'est à lui de choisir. Après, tu as le sorcier. Lui, il est dans une logique, je suis le relatif et je vais soumettre l'absolu. Et c'est la même logique que le chercheur et le scientifique. Hein. Moi, petit grain de poussière sur une balle de ping-pong, je vais soumettre tout l'univers et tout comprendre. Donc, tu vois, il y a ces deux logiques. Quand cette logique-là est dépassée, on passe dans le mystique. La réconciliation entre l'absolu et le relatif. Donc, se réconcilier avec sa part divine, en fait. Le mystique se réconcilie